suffisant d'avoir ça entre nos mains, mais il faut planter ça, serrer cela dans notre cœur. J'ai serré ta parole dans mon cœur, le psalmiste a dit, pour que je ne pêche pas contre toi. C'est la parole serrée dans le cœur qui nous aide à ne pas pécher. Et on va déclarer ceci, on va dire, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai toujours et à jamais changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, juste avant de commencer le message de ce matin, je voulais faire un petit pub pour le message qui s'en vient après mes vacances. Parce que j'ai failli le prêcher ce matin. Mais je vais vous expliquer cela. Parce que depuis quelques jours, il y a des choses qui roulent dans mon cœur concernant comment échapper les pièges de l'ennemi. Et c'est un message qui va nous libérer. Combien de fois on tombe dans les pièges? Et les pièges sont placés sur notre sentier stratégiquement par notre adversaire, par notre ennemi. Et son désir, son but, c'est de nous capturer, nous rendre captifs. Il veut soit nous tuer tout de suite ou nous rendre captifs pour faire sa volonté comme son prisonnier jusqu'au jour qu'il peut nous tuer. Et on sait en tant que chrétien que si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dans les pièges de Satan. Et les pièges de Satan sont nombreux. Il y en a au moins 6 que nous allons voir, et nous allons voir comment les éviter. Les pièges comme les offenses, être offensé, ne pas marcher dans l'amour. Les pièges comme la crainte de l'homme. Les pièges comme un manque de contrôle sur les paroles de notre bouche. La parole de Dieu parle beaucoup des pièges et il nous donne les instructions comment éviter ces pièges. Mais je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin. Je vais prêcher là-dessus dans quelques semaines parce que, vous savez, c'est comme une bonne soupe. Des fois, combien de fois vous avez déjà fait la soupe ou une sauce spaghetti? N'est-ce pas vrai que le goût est meilleur, plus on peut le laisser mijoter, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que, en fait, le message est prêt à prêcher. Le premier message, j'ai terminé des choses hier soir, mais c'est comme non, le Saint-Esprit avait autre chose pour ce matin, et c'est comme non, on va laisser mijoter ce message sur comment échapper les pièges de l'ennemi, et comme ça, ça va être encore meilleur dans 2 semaines, OK? Donc, mais venez, manquez pas ça, parce que ça va être une chose qui va vous épargner la vie. Ça va sauver votre vie, ça va sauver votre ministère et ça va vous rendre utile et fructueux pour le royaume de Dieu. Et c'est ça que nous désirons, n'est-ce pas? Bon, mais ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager des choses cœur à cœur avec vous et de terminer en dernier message sur la série que j'ai commencée il y a 3 semaines sur qu'est-ce que votre vie? Et on va regarder cela, comment mener une vie qui compte pour Dieu. Savez-vous que la vie ici sur la terre est courte et on a chacun un choix et des choix à faire. Et les choix que nous faisons vont déterminer si notre vie va compter pour Dieu ou si notre vie va se gaspiller. Notre texte clé qu'on a lu il y a quelques semaines, c'était en Jacques chapitre 4. Et si vous voulez, on va regarder cela encore ce matin. Jacques chapitre 4, on va le lire. À vous maintenant que dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Regarde quelqu'un et dit, qu'est-ce que votre vie? Voilà la question. Et la réponse est directement dans ce verset. Vous êtes une vapeur. OK? Regarde la même personne, je suis une vapeur. Je suis une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Savez-vous que la parole de Dieu dit que nous sommes tous, notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite cette vapeur va disparaître. Et qu'est-ce qu'on a dit il y a 3 semaines? Que ça peut être presque déprimant de penser que, bon, notre vie est comme une vapeur, mais ça ne devrait pas nous décourager. La vapeur, c'est comme si on prend de l'eau et on va réchauffer, faire bouillir l'eau. Qu'est-ce qui arrive? La vapeur va former et 2 choses peuvent arriver. Soit la vapeur peut disparaître dans l'atmosphère et on n'a aucune évidence que ça a existé. C'est comme, c'est là, c'est parti, personne ne peut apercevoir que sa présence était là. Ou on peut prendre la même vapeur, comme ils font avec les trains, des fois les bateaux, et on peut capturer la vapeur dans un moteur, et ce moteur peut faire avancer, peut propulser des personnes et des biens vers une destination spécifique. Et c'est ça que je veux faire avec ma vie. On a le choix. Soit on peut vivre d'une manière que notre vie va juste disparaître, personne ne va pouvoir se rendre compte du fait qu'on était là, ou on peut vivre d'une telle manière que tout ce que nous faisons, toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos gestes vont laisser les traces. On va propulser les gens vers la destination finale qui est le ciel. Amen. Combien de vous voulez que votre vie compte pour Dieu? C'est ça que je désire. Je ne veux pas gaspiller ma vie. Alors, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce message est encore plus vrai dans mon cœur aujourd'hui que jamais. J'ai commencé à méditer cela il y a déjà plus qu'un mois et dans la même semaine que j'ai eu ça dans mon cœur, on a eu le décès de Michael Jackson et la même journée, Farrah Fawcett et des personnes qui avaient une réputation et que ce sont des noms qu'on a juste à dire Michael Jackson, tout le monde sait de qui on parle, mais laisse-moi vous dire, sa vie était courte, 50 ans sur la terre, il est parti. OK? Et puis, par la suite, j'avais mon frère qui m'avait téléphoné pour me dire que, Ken, si c'était moi, je viendrais à Saint-Louis juste voir papa parce qu'il ne va pas bien et je ne sais pas pour combien de temps il va pouvoir vous reconnaître. OK? Mon père, on ne sait pas exactement le problème. Il n'a que 68 ans. Il y a 2 ans ou 3 ans, il était assez en forme. Mon père, c'est un grand sportif. C'était toujours mon héros. C'est le gars qui était en forme, un monsieur nature, plein air. C'était quelqu'un qui faisait la course du canot. Pour lui, 26 000 canots, quelques heures, pas de problème. Il était toujours le champion de l'État de Missouri, le champion national. Et jusqu'à il y a quelques ans, à tous les jours, il s'entraînait parce qu'il vit à côté d'une belle rivière. Donc, c'est un gars en forme. Je faisais du canotage avec lui il y a quelques ans et il me battait toujours. On montait, hein? On descend pas toujours les rivières, on monte les rapides. Et je suis assez en forme aussi. Mais mon père était capable toujours de me battre. C'est comme un moteur en arrière d'un canot. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, il peut plus marcher. Aujourd'hui, il a de la difficulté à parler. Aujourd'hui, des fois, sa tête est là, des fois, sa tête n'est pas là. Ils ne savent pas exactement. Ils ont dit qu'il fait de l'Alzheimer, mais c'est plus que ça. Alzheimer, peut-être Parkinson, il shake, sa jambe shake comme ça, et ça prend 2 ou 3 personnes pour changer sa couche, parce qu'il est rigide. OK? Et je vois tout cela, et j'ai expérimenté des choses, même cette semaine, qui, encore une fois, c'est comme, wow, la vie est courte. On n'a pas une éternité pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire sur la terre. On a un certain nombre de jours. Et moi, je suis de l'opinion qu'en tant qu'enfant de Dieu, mon père n'est pas encore chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, on peut faire confiance au Seigneur, de prendre soin de nous. On peut viser une vie en santé, même une vieillesse qui est heureuse et qui est comblée, et qu'un jour, oui, notre corps va s'user, un jour, mon cœur va arrêter de battre, mais je ne suis pas obligé de mourir avec quelque chose qui fait partie de la malédiction de la loi. Jésus a dit, mais en fait, la parole de Dieu dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Donc moi, je crois à la guérison divine parce que, et on vient de faire une série le mercredi soir des semaines et des semaines. On regardait les témoignages de la parole de Dieu. Qu'est-ce que disaient les prophètes? Qu'est-ce que disait la loi de Moïse? Qu'est-ce que disaient les psaumes? Qu'est-ce que disaient les évangiles et le Nouveau Testament? Tout. Et la Bible est pleine des promesses pour la guérison divine. Mais on sait que un jour on va tous mourir, n'est-ce pas? Et une fois qu'on meurt, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ vont se trouver devant le grand tremblant du jugement. Ils vont être jugés pour leur péché. Et ça va être trop tard pour eux. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons donné notre cœur à lui, qui ont confessé avec la bouche le Seigneur Jésus et qui ont cru que Dieu l'a ressuscité, nous n'allons pas nous trouver devant le grand tremblant du jugement, mais il y a quelque chose qui s'appelle le tribunal de Jésus-Christ. Et on va se trouver devant Jésus, notre Seigneur, notre Maître, et on va avoir un compte à rendre pour la vie qu'on a menée ici sur la terre. Et ce matin, j'avais à cœur juste de partager encore une fois avec vous concernant ce tribunal et concernant cette belle vie que nous avons l'occasion de mener ici sur la terre. C'est une belle vie. Je crois que la vie chrétienne est une belle vie. C'est pas facile, mais c'est une belle vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et on devrait avoir du fun, on devrait avoir du plaisir, mais on n'est pas ici juste pour ça, on est là pour porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et si on peut regarder ensemble le verset de 2 Corinthiens, ou 1 Corinthiens, pardon. Non, j'avais raison, premièrement, on va regarder 2 Corinthiens 5, 10, c'est ça. Je l'ai déjà cité, mais on va le lire. Car il nous faut tous comparaître devant quoi? Le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Remarquez bien, et encerclez le mot « chacun », afin que chacun reçoive. Moi, je crois à l'Église locale. Je crois que nous sommes appelés à faire la vie ensemble. Nous sommes un corps. Et le doigt du corps ne peut pas faire grand-chose sans la main. La main ne peut pas faire grand-chose sans le bras. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand même, nous avons une responsabilité personnelle par rapport au Seigneur Jésus. Quand on se présente devant Dieu, ça ne serait pas vous dans une foule, ça serait toi seul devant ton Créateur, devant ton Maître, n'est-ce pas? Tu peux même pas amener ta femme avec toi. Messieurs, tu peux pas dire, « Oui, mais ma femme ne m'a pas permis de faire telle chose. » Adam a essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu as remarqué en Genèse? « Oui, mais la femme que tu m'as donnée. » Savez-vous que quand vous serez face à face avec votre Créateur, tu ne peux pas être là. Comme j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, Dieu, et ma mère m'a toujours dit cela, Dieu n'a pas des petits-enfants. Il n'a que des enfants. C'est-à-dire que je ne peux pas compter sur la foi de ma main, sur le salut de ma main. C'est pourquoi j'avais besoin de prendre ma propre décision de me faire baptiser quand j'ai cru de mon propre cœur, n'est-ce pas? Je ne vais pas me présenter devant Dieu en disant, « Oh, mais ma mère était une bonne chrétienne, Seigneur. » OK, c'est vrai, ma mère est une bonne chrétienne, mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à rendre compte à lui? Est-ce que nous sommes prêts à vraiment être face à face avec Jésus-Christ? Il y a un verset en 1 Corinthiens chapitre 3 qui va servir de notre texte clé aujourd'hui. J'aimerais le lire encore aujourd'hui et faire quelques observations, méditations et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre cela en pratique. Parce qu'il y a des choses que la Bible nous montre dans ces versets qui vont nous aider à nous préparer pour cette journée. Cette journée s'en vient, veut pas. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas te trouver devant le grand tremblant du jugement. Si tu es déjà dans le Seigneur, tu ne seras pas jugé parce que, dans ce sens-là, parce que tes péchés sont déjà jugés en Jésus. Mais tu vas être récompensé pour qu'est-ce que tu as fait dans ton corps. Voyez-vous la différence? Le grand tremblant, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux qui sont sauvés, mais qui vont être récompensés. OK? Tout le monde dit, les récompenses seront données au tribunal de Christ. OK? Mais ici, on voit qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit en Corinthiens chapitre 3, verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » L'œuvre de qui? C'est-à-dire vous, individuellement. Mais, faisons attention, chacun va être jugé individuellement, mais chacun est appelé à travailler avec les autres. Amen? En fait, ça, c'est une des choses que Dieu va voir. Est-ce que tu étais capable de travailler avec les autres membres du corps? Je veux savoir ton attitude individuelle par rapport au corps de Christ. Est-ce que tu étais capable de coopérer, collaborer et travailler dans un esprit d'unité et d'harmonie avec les autres membres du corps pour pouvoir produire du fruit pour le royaume de Dieu? L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quelques traductions disent comme quelqu'un qui s'échappe d'un incendie. Et qu'est-ce que je veux souligner dans ce verset? Parce que ce verset ne parle pas aux non-croyants. Si vous ne croyez pas encore en Jésus, ou si vous n'avez pas aujourd'hui l'assurance d'être enfant de Dieu, première étape, repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, soyez sauvés de vos péchés, et il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Comme ça, vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle et vous êtes dans le royaume de Dieu. Mais si vous êtes déjà compté parmi les gens qui sont dans Christ, qui sont chrétiens aujourd'hui, cette parole s'adresse à vous. Le fondement qui est posé est déjà en place. Et il n'y a pas un autre fondement qui pourrait fonctionner. Ce n'est que Jésus qui nous donne une base solide sur laquelle on peut bâtir sa vie. N'est-ce pas vrai? Qui est d'accord avec moi? Ce n'est que Jésus. Mais que chacun prenne garde de la manière qu'il bâtit dessus. La fondation est là, et Dieu dit maintenant, tu dois bâtir. Mais pas seul, la Bible dit dans le même contexte, nous sommes ouvriers avec Dieu. Tout le monde dit, je suis ouvrier avec Dieu. Pas pour Dieu, mais avec lui. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, on a prié tantôt pour Ken, ma fille qui va aller en mission. Tu as vu, il est assez grand, assez costaud. Ça serait une chose, je pourrais travailler pour lui s'il dirait, bon, mais parce que j'aimerais que tu déménages le piano, et je pourrais essayer de déménager le piano pour lui. Ou je pourrais travailler avec lui. Et lui va prendre un côté, et je vais prendre un côté, et je suis convaincu, aucun doute que ça va être beaucoup plus facile. Vous êtes d'accord avec moi? Même chose, on ne travaille pas pour Dieu, mais avec lui. Mais quand on travaille avec lui, on bâtit sur le fondement. On est en train de construire notre vie et on veut mener une vie qui compte pour Dieu. Donc, c'est à vous de choisir les matériaux. Est-ce que vous allez bâtir avec du bois, du foin, du chaume, ou est-ce que vous allez choisir de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Je crois que dans ce verset, on voit trois éléments clés qui vont nous aider à bâtir une vie solide et mener une vie qui compte pour Dieu. J'aimerais juste terminer aujourd'hui en regardant ces trois éléments. Et je vais vous demander à sonder votre cœur honnêtement. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-moi droit dans les yeux. Tout le monde? Je ne veux pas que vous écoutiez un sermon, que vous quittiez l'église et disiez, bon, mais c'était intéressant. Mais je veux vraiment que vous sondiez votre cœur. Posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Comment est-ce que vous bâtissez votre vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous vivez? Quelle est la motivation de votre cœur? quel est votre dû dans la vie? Et si on veut bâtir une vie solide et si on veut mener une vie qui compte pour Dieu, la première chose qu'on a besoin de faire, numéro un, bâtissez avec l'or en faisant tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout, on voit que l'or représente la gloire de Dieu. L'or est pesant, l'or est pur, Dieu est pur, et on voit même que la gloire veut dire littéralement, c'est comme un pesanteur de Dieu, la présence manifestée de Dieu, sa gloire. On veut que tout ce que nous faisons dans la vie rend gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus l'a bien dit en Matthieu chapitre 5, verset 13, je pense que je l'ai mis dans vos notes, n'est-ce pas? Matthieu 5, 13 ou 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils quoi? Glorifient votre Père qui est dans les cieux. Posez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui fait en sorte que les gens qui vous entourent s'allument et disent « Wow, il y a quelque chose de différent chez lui. » Et quand ils voient qu'est-ce que vous faites, leur attention est attirée vers Dieu. C'est quand la dernière fois, est-ce que c'était hier, ce matin, la semaine passée, le mois passé, l'année passée, c'est quand la dernière fois que quelqu'un dans votre entourage a pensé à Dieu à cause de ce que vous avez fait? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais sérieusement, je vais le poser encore. C'est quand la dernière fois que quelque chose que vous avez fait a produit une réaction chez les gens de votre entourage, ils ont dit « Wow, Dieu est vraiment grand, Dieu est puissant. » Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et savez-vous que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres? La Bible dit « On est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. » Personne ne peut se le vanter. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut. On veut que ces bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde soient accomplies. Et la seule manière de le faire, c'est de vivre en Jésus, d'être en amour avec Jésus, d'être rempli de son esprit et rempli de la connaissance de sa volonté. Il y a un verset qui, en Corinthiens chapitre 10, verset 31, qui est tellement fort, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Tout le monde dit « Mangiez, buviez, quelque autre chose. » Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas inclus dans la liste? Je pense que ça couvre tout, n'est-ce pas? Si on mange, si on boit, si on fait quelque autre chose. C'est quoi que la Bible nous demande? Hein? Faites tout pour quoi? La gloire de Dieu. Je veux que Dieu soit glorifié même de la manière que je mange. Je ne suis pas en train de parler de devenir bizarroïde ici. OK? Et que tout doit être fait avec cérémonie et d'une manière traditionnelle. Savez-vous, vous pouvez avoir un bon barbecue, avoir un bon temps dans un bon restaurant comme... Michael et René vont faire, c'est un restaurant quoi, 4 étoiles, je pense. Ils vont déguster un bon repas. Mais savez-vous quoi? Ils vont faire ça, je crois, pour la gloire de Dieu. Comment? Parce que s'ils ont une bonne astuce, s'ils sont en amour, et ils sont en train de partager un souper tête à tête, la serveuse va voir, waouh, ce couple est en amour. Peut-être ils vont dégager l'amour et une atmosphère divine. Et savez-vous quoi? Tout ce que ça prend, la serviette, mais commence à parler avec. Et ça peut être pour la gloire de Dieu. Une porte ouverte pour témoigner une petite chose de comment Dieu est bon, comment Jésus. Mais moi, je n'ai pas peur avec René et Michael. Je sais qu'ils vont parler de Jésus. soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre manière d'être. Hein? Et faites pas l'erreur comme quelques-uns de laisser un traité d'évangélisation au lieu d'un pourboire. Hein? Ça, c'est pas pour la gloire de Dieu. Si vous voulez laisser un traité d'évangélisation, remplissez-le avec des billets importants. Donnez le meilleur pourboire que vous pouvez donner, et ça va être un bon témoignage pour la gloire de Dieu. Mais même quand on parle de manger, de boire, savez-vous quoi? C'est une attitude. Seigneur, tout ce que je fais aujourd'hui, je vais manger pas juste pour mon propre plaisir, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je veux manger pour ta gloire en mettant les choses dans mon corps qui vont alimenter, nourrir, fortifier, aider tous les systèmes de mon corps de fonctionner bien comme il faut, mon système immunitaire et mon système cardiovasculaire et mon système nerveux. Je veux que tout fonctionne bien. Et je sais que si je ne mange que des Smarties et de la poutine, je ne serai pas en bonne santé. Donc, tout d'un coup, tout change quand on fait tout pour la gloire de Dieu. Je mange bien. Est-ce que je suis en train de dire que vous ne devrez jamais manger une poutine? Non, ça c'est entre vous et Dieu. Moi, j'en mange des fois. Mais il y a une limite. Il y a quand même une discipline qu'on a besoin d'avoir dans la vie chrétienne si on veut bâtir avec de l'or pour la gloire de Dieu. On mange bien, on boit pour la gloire de Dieu, on fait tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait. Vous prenez une vacance, nous allons partir en vacances. Moi, je veux prendre une vacance pour la gloire de Dieu. Je veux avoir un bon temps avec ma famille. Je veux bâtir la relation entre moi et mes enfants. Je veux tisser les liens. Je veux que mon mariage soit fortifié. Savez-vous quoi? Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Vous pouvez même, je dirais, vous êtes capable de regarder un film pour la gloire de Dieu. Il y en a d'autres que c'est quasiment impossible. Choisissez bien vos films, hein? Il y en a que si Jésus ne serait pas confortable à regarder ça avec toi, tu ne devrais pas le regarder. Mais tu sais quoi? Si tu es en train de regarder un film avec ta douce et vous êtes ensemble et c'est un bon temps et vous êtes avec vos enfants, ça peut être un temps de, quand même, un temps de qualité aussi. Où tu peux avoir une conversation, tu peux faire plein de choses. Tout peut être fait pour la gloire de Dieu. Jouer au golf, aller à la pêche. Je veux vraiment que ça soit clair. Je ne parle pas d'être religieux, raser la tête. Je l'ai presque fait cette semaine, mais pas tout à fait. C'était une lutte avec la tondeuse. La tondeuse a gagné. Mais, non, c'était pas ça. C'était une douche trop chaude, non? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je veux ôter cette idée que, bon, pour être saint, ou pour faire des choses pour la gloire de Dieu, qu'il faut mettre une robe, les sandales, raser la tête et vivre dans un monastère quelque part. Non, ça ne serait pas bon. Il faut que le sel soit dans la terre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sous un boisseau, on le fait pour la gloire de Dieu. Amen? Et je veux vraiment... Je vois des personnes ici qui ont des talents pour les arts. Moi, je veux voir les arts utilisés pour la gloire de Dieu, mais pas juste d'une manière religieuse. Amen. Tout ce que vous faites peut être fait pour la gloire de Dieu si vous le faites avec la bonne motivation et en étant conduit par le Saint-Esprit. Amen. Deuxième chose, bâtissez avec l'argent en cherchant toujours le salut des autres. Donc, je vais bâtir de l'or. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Mais je cherche aussi le salut des autres. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, dans la parole de Dieu, on voit l'argent qui représente la rédemption. C'est symbolique. L'argent symbolise souvent dans la parole la rédemption. OK? Et si on va bâtir avec de l'or, c'est pour la gloire de Dieu. Avec l'argent, je fais tout dans le but de voir les âmes sauvées, de voir que l'humanité soit capable de recevoir la rédemption qui leur appartient en Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça? Franchement. Encore, est-ce que je peux juste être cœur à cœur avec vous aujourd'hui? je veux partager vraiment de mon intimité aussi. Comme je dis, j'ai passé une semaine difficile la semaine passée. Ce n'était pas évident. Il y en a beaucoup de vous, vous avez passé par la même étape avec vos parents, quand vous voyez que ce n'est pas évident de voir les rôles renversés. Vous êtes d'accord? Quand c'est toi qui dois mettre chaque bouchée dans sa bouche, aider à changer la couche, et c'est pas évident. OK? Mais une chose, par exemple, aussi, que j'ai vue, et que c'était tellement flagrant, parce que c'était pas évident pour mon père non plus. Hein? Parce que lui, il vit dans une... pas une grosse maison, lui. Il a acheté une cabane... il y a longtemps, je dirais que c'est une cabane, c'est presque une cabane, comme un chalet, sur, on a une vue sur une rivière, c'est extraordinaire, la beauté naturelle. Un jour, je vais vous montrer une photo. Mais c'est une place très humble, mais il a fait des rénovations, il a ajouté des pièces et pendant des années, et là, ils vont terminer bientôt. Ils ont acheté du bois franc pour installer du bois franc, mais il y a deux semaines, il sortait de son lit, il est tombé, il ne pouvait plus bouger. Ça a pris des premiers répondants et ça a pris 3 ou 4 ans pour le faire sortir de la maison. Et lui, il a des marches, facilement 25-30 marches, parce que encore c'est sur le côté d'une colline où il habite. Donc, il est sorti de la maison. Et là, il veut rentrer à la maison. Mais il ne peut plus rentrer à la maison. Et moi, j'ai écouté mon père et avec les larmes, et il pleurait aussi. Et il veut rentrer. Il voit sa femme, il dit, j'ai une belle femme, je veux être avec elle. Ma maison est presque terminée, je ne serais même pas capable de le voir. Est-ce que ça te fait penser à quelques versets de la parole de Dieu? L'homme qui a ramassé tous ses biens, il a dit, bon, j'ai beaucoup de biens, j'ai plus de place. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais raser mes greniers. Je vais en bâtir plus grand, remplir ça. Puis je dis, mon âme, tu es bien. Tu as beaucoup pour beaucoup d'années. Bon, mais il a dit, insensé, ne sais-tu pas que cette nuit même que ton âme te sera demandée. Et j'ai écouté mon père parler comme ça. Je dis, waouh, c'est triste. C'est triste. Toutes les choses qu'il aime. Et déjà l'année passée, il a dit, ah, je ne sais pas, ça se peut que je ne serai jamais plus capable d'être dans un canot. Pour lui, c'est sa vie. Hein, ma mère a toujours dit, je suis né dans un canot, pas tout à fait, mais. Hein, on a des photos, moi, tout petit, avec le gilet de sauvetage dans le canot. Je grandis comme ça. Mais lui, c'est sa vie. Mais sa vie, il n'est plus en contrôle de sa vie. C'est ça la chose qu'il a de la difficulté à accepter. Mais savez-vous quoi? Lui, il est comme les 6 milliards d'autres personnes sur la planète Terre. On pense qu'on est maître de soi-même, mais la réalité, c'est que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et on va arriver, chacun de nous, on va arriver à une place dans notre vie où ce n'est plus nous qui prenons nos décisions. Nous ne sommes plus en contrôle de sa vie et surtout de son éternité. Et c'est pourquoi moi, je veux passer toute ma vie, faire tout ce que je peux pour partager la bonne nouvelle, prêcher l'évangile de Jésus-Christ, dire à tout le monde, savez-vous quoi? Il s'en vient un jour où vous ne serez plus en contrôle. Il faut que vous fassiez confiance à celui qui est capable de contrôler votre destinée. Amen. Il faut que vous fassiez confiance à Jésus parce que lui, il vous aime et il veut vous amener là où il est. Il vous a déjà racheté. Il vous a déjà sauvé de vos péchés. Et vous avez tout simplement besoin de confesser avec ta bouche et de croire dans ton cœur et que tu peux recevoir gratuitement cette vie nouvelle, cette vie éternelle. N'est-ce pas bon? Et je vois ça. Mon père, il a écrit 3 livres. Et donc, il a de la difficulté parce que là, les gens le voient et on dirait que c'est un imbécile. Et des fois, les personnes le traitent comme un imbécile. Mais ils voulaient qu'on amène ses livres. Donc, on distribue ses livres aux médecins et à d'autres personnes pour que les gens sachent que c'est un homme accompli, il a fait des choses dans la vie. Mais en quelque part, je me suis dit, waouh, ouais, c'est bon. c'est bon et je suis fier de ce qu'il a fait. Mais les choses qu'il a fait, je ne suis pas en train de dénigrer. Mais sur le plan éternel, toutes nos œuvres, tous nos accomplissements. J'ai entendu Jim Caseman, qui est président de notre association, il a dit ceci la semaine passée. Il a dit, tu sais quoi, un jour, tout ce que nous avons ici sur la terre va brûler, incluant tous les monuments qui ont été érigés à tous les hommes, toutes les places qui sont érigées en mémoire de telle personne, tout cela va disparaître. Donc, la seule et l'unique façon de vraiment laisser vos traces d'une manière éternelle, c'est d'amener les âmes au Seigneur. Faites toutes les autres belles choses, c'est correct. Rendre les gens heureux, c'est correct. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, ça ne vaut pas grand-chose. Tous les accomplissements des hommes ne vaut pas grand-chose sans Jésus. Donc, c'est pourquoi Paul a dit ceci. On va voir ce verset en Corinthiens 10, 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni à la, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant quoi? Non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul a dit, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Avec les non-Juifs, comme un non-Juif. Je me suis fait tout pour tout, afin de gagner le plus grand nombre. Et en quelque part, ça c'est le défi que le Seigneur veut nous lancer, je crois. Pourquoi est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous baptisez votre vie? Est-ce que vous menez une vie qui compte pour Dieu? Est-ce que vous baptisez avec de l'or pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous baptisez avec de l'argent pour la rédemption de l'humanité? Parce que toutes les autres choses ne vaut rien sans le salut des âmes. Vous me suivez ce matin? Posez-vous la question. J'ai déjà posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement qui a provoqué une réaction chez les gens? Wow, Dieu est vivant. Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ou la semaine passée ou l'année passée qui a glorifié Dieu? Je vous pose une autre question. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement qui a aidé une âme à découvrir la vie éternelle et à participer à la rédemption qui lui appartient en Jésus-Christ? Posez-vous la question. Parce que sinon, nous sommes en train de bâtir avec du foin, du chaume, du bois. Toutes ces choses vont brûler. Moi, je veux bâtir avec de l'or, de l'argent. Tout le monde dit l'or et l'argent. Et c'est quoi la troisième chose? Les pierres précieuses. Et qu'est-ce que cela représente? Moi, je crois, c'est mon opinion. Souvent, on voit cela, même en 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Tout le monde dit, je suis une pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Savez-vous, je crois que l'or représente la gloire de Dieu. L'argent représente la rédemption. Et je crois que les pierres précieuses représentent quoi? Les gens. Nous sommes les pierres vivantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et je sais que j'ai partagé ces vérités à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois, à moins que c'est la première fois que vous venez dans cette église, pas la première fois que vous m'avez entendu prêcher ces vérités. Mais c'était tellement fort dans mon esprit qu'on avait besoin de s'arrêter, de s'examiner et de vraiment être honnête avec soi-même et Dieu. Est-ce que je suis en train de bâtir pour la gloire de Dieu, pour la rédemption de l'humanité? Et est-ce que je suis en train de cultiver les relations saines avec ceux qui m'entourent? La gloire de Dieu, le salut des âmes et les relations saines. Pour moi, ça c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Savez-vous que la seule chose que nous avons ici sur la planète Terre qui peut être éternelle, c'est les relations. Tout le monde dit les relations. Premièrement, notre relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est éternelle. Il est mon Père, je suis son enfant pour toute éternité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être enfants de Dieu ce matin? Oh. Mais savez-vous quoi? Nous qui sommes dans la même famille, qui sommes nés de nouveau, qui sommes issus, on pourrait dire, de la même semence, qui sommes nés du même esprit. Nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes dans la famille de Dieu. Savez-vous quoi? Que notre relation est éternelle aussi. Nous allons passer l'éternité ensemble. Il y en a ici qui disent, « Oh, est-ce qu'on a besoin d'être proches? » Laisse-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, nous vivons encore dans ce corps qui est infecté par le péché. On a encore les luttes avec la chair. Mais un jour, quand ils viennent et on va être pareil à Jésus, tout le monde, sans exception, va être semblable à lui et on va vouloir être ensemble. Amen. Mais, entre-temps, on a besoin de pratiquer. Et ce n'est pas toujours évident. Et une chose qu'on va voir, même quand on va parler de comment échapper les pièges de l'ennemi, on n'ignore pas le dessein de Satan. On sait que son dessein numéro un, c'est de semer la division, la frustration, les offenses. Et si on se laisse offenser, si on est fâché, on est sur le terrain de l'ennemi. On a notre pied dans son piège. Et on est prêt à être détruit. Amen. Donc, je crois que si on va mener une vie qui compte pour Dieu, il faut vivre pour la gloire de Dieu. Il faut vivre pour le salut des âmes. Et il faut apprendre à cultiver les relations qui sont saines. Aimez-vous les uns les autres. Un nouveau commandement je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que ça c'est une suggestion ou un commandement? On n'a pas de choix. Savez-vous quoi? Même si je ne suis pas toujours agréable, vous êtes obligé de m'aimer. Je n'ai pas dit que vous êtes obligé de toujours accepter. On n'est pas obligé d'accepter être maltraité. Comprenez? Il y a des choses qu'on peut faire. On peut quand même aimer sans se soumettre à un maltraitement. Comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il y a un équilibre. Aimer, pardonner, c'est une chose. Faire confiance, c'est une autre chose. Et voilà, on n'a pas le temps d'entrer trop en détail là, mais je veux tout simplement ce matin que vous examiniez votre cœur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement qui vous a aidé à tisser des liens avec quelqu'un dans le corps de Christ ou quelqu'un qui n'est pas encore dans le corps de Christ? Encore, toutes nos relations peuvent être éternelles. Ceux qui sont déjà chrétiens, trop tard, c'est éternel. Mais tous les non-croyants qui vous entourent, les personnes avec qui vous êtes amis, les collègues au travail, savez-vous que ça peut devenir éternel aussi? Donc on doit avoir cette optique dans la vie. Aujourd'hui, je vis pour la gloire de Dieu. Je veux que les âmes soient sauvées. Et je vais faire tout mon possible pour tisser les liens, cultiver les relations avec les gens, marcher dans l'amour, se pardonner réciproquement. L'amour couvre une multitude des péchés. Dernier verset qu'on veut voir aujourd'hui, c'est ici. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça, c'est très, très fort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous allons dans l'église? Non. Parce que nous lisons notre Bible? Non. Parce que nous sommes très religieux? Non. Hein? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que j'étais gentil avec les gens? Non. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, je pense que, encore, si on regarde la vie qui est courte, qui est comme une vapeur, qui apparaît et qui va disparaître, et si on veut capturer cette vapeur pour que ça peut être utilisé par Dieu pour propulser les gens vers leur destination finale au ciel, si on veut que notre vie compte pour Dieu, si on veut laisser les traces, on n'est pas en train de parler de faire un homme pour soi-même. Okay? Il y a des gens qui veulent faire un nom pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils vont ériger les monuments, bâtir les bâtiments, écrire les livres. n'est pas une question de bâtir un royaume pour vous-même, pour que les gens s'en souviennent de vous une fois que vous êtes mort. Non, ce n'est pas ça. Notre but, c'est de bâtir avec de l'or pour la gloire de Dieu, avec l'argent pour la rédemption des âmes, avec les pierres précieuses, en tissant les liens saines et faisant les relations saines avec les autres. Amen. Ce n'est pas une question de devenir une vedette spirituelle, de construire un ministère où tout le monde reconnaît ton nom. Combien de vous avez déjà entendu parler de Billy Graham? Levez la main. Si vous avez entendu le nom Billy Graham, levez la main. Presque tout le monde ici a entendu parler de Billy Graham. Pourquoi? Parce que c'est un évangéliste qui a prêché probablement plus que n'importe qui dans notre génération. Il a prêché à des millions de personnes. Mais là, ça va vous poser une autre question. Combien de vous avez entendu parler de la femme qui a amené Billy Graham au Seigneur? C'est quoi son nom? Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Croyez-vous que son séjour sur la terre a compté pour Dieu? Voyez-vous, il y a des personnes qui peuvent mener une vie discrète, en arrière des scènes, mais ils sont en amour avec Dieu. Ils vivent pour la gloire de Dieu, pour la rédemption de l'humanité. Ils tissent les liens solides avec les jeunes autour d'eux. Et ils vont faire un impact pour la gloire de Dieu. On ne s'en souvient pas de son nom, mais ce n'est pas son nom qui compte. Le seul nom qui compte, c'est le nom de Jésus. Parce qu'un jour, quand nous serons face à face avec Jésus, devant le tribunal de Christ, il va distribuer les récompenses. La Bible dit qu'on va recevoir les couronnes. Il y en a qui vont recevoir beaucoup. Il y en a qui vont perdre qu'est-ce qu'ils ont. Il y en a qui vont être récompensés d'une manière grandiose. Il y en a d'autres qui vont être sauvés. Ils vont passer l'éternité au ciel, mais comme quelqu'un qui s'échappe d'un feu. Mais même ceux qui reçoivent toutes les couronnes, savez-vous qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Un jour, devant le trône de celui qui est mort pour nous, on va lancer ses couronnes à ses pieds. On va dire que c'est toi qui es digne de recevoir la gloire et de recevoir l'honneur. C'est toi seul qui es digne. C'est toi seul qui es digne. C'est tout à propos de Jésus, n'est-ce pas? On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Tout le monde dit, je veux bâtir ma vie avec de l'or pour la gloire de Dieu. Avec l'argent pour voir les âmes sauvées, avec les pierres précieuses, en cultivant les relations saines. Alléluia. Il n'y a rien de plus important. Rien qui compte plus que ça. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Seigneur, je te remercie que ce matin nous avons vu les choses dans ta parole. Et Seigneur, on veut s'examiner soi-même. On veut être honnête. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a glorifié à cause des bonnes œuvres qu'ils ont vues chez nous? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose qui a aidé à amener une âme au salut? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour tisser les liens ou cultiver les relations saines avec les autres? Ça, c'est les trois choses qui comptent dans la vie. C'est pourquoi nous sommes ici dans cette église. On veut s'engager à ces choses, bâtir cette église collectivement et individuellement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Tout le monde dit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Amen. Avant de terminer, une chose qu'on fait à tous les dimanches, on veut donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont ici présents. Si vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le temps. N'hésitez pas. Posez-vous la question. Si vous partez d'ici, et en quittant le bâtiment, même votre cœur arrête de battre. Et vous tombez, votre corps est mort, votre esprit quitte votre corps. Avez-vous l'assurance que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Vous dites, mais je suis une bonne personne, je lis ma Bible, je vais à l'église. C'est pas assez. La seule manière d'aller au ciel, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus, de l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel, de confesser de ta bouche qu'il est ton maître et ton Seigneur, et de croire qu'il est ressuscité. Et Jésus-Christ a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Je vais tout simplement vous donner une occasion, tout de suite. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore cette assurance, mais vous voulez savoir sans aucun doute que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez la vie éternelle et une place réservée pour vous au ciel. Je vais vous donner l'occasion de le recevoir. Je vais prier avec vous. Qui veut faire cela? Je vais lever la main. Je vais compter à trois, taper ma main. Et si vous êtes là, vous voulez donner votre cœur à Jésus. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui ne l'a jamais fait. Sinon, combien de vous êtes prêts à vous engager, à continuer à examiner votre vie, votre temps, votre énergie, vos talents, votre trésor, toutes les choses que vous avez à investir dans la vie? Combien de vous êtes prêts à examiner ces choses cette semaine pour voir si c'est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Et si vous voyez que, il y a un peu de bois ici, un peu de chaume ici, un peu de foin là, on va le remplacer avec des choses qui comptent. Amen. On ne va plus gaspiller du temps. On va saisir chaque moment de chaque jour. Chaque minute de chaque jour est précieux. Je me suis rendu compte de cela encore une fois, comme j'ai dit. Quand j'étais avec mon père, quand je l'ai quitté, la journée même que je suis parti de l'hôpital, j'ai dit au revoir à mon père et je l'ai serré dans mes bras. Et je savais que dans mon cœur, il se peut qu'il va vivre 10 ans de plus. Mais il se peut que c'est la dernière fois que j'ai mis mes yeux sur lui. Il faut qu'on sache. J'ai eu cette pensée, juste un petit plus ce matin. Qu'est-ce qui se passerait si à chaque fois qu'on se verrait, on ferait comme si c'était la dernière fois qu'on allait se voir? Quand on dit au revoir aujourd'hui, si on le dirait comme si, tu sais quoi, c'est peut-être la dernière fois. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'attendre à une longue et heureuse vie sur la terre, c'est pas ça. Mais c'est plutôt une mentalité, une attitude d'apprécier chaque personne et chaque moment de chaque jour de notre vie. La vie est précieuse. Mais elle est comme une vapeur que je ne veux pas gaspiller. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un dernier chant. Je vous aime et je vous encourage à venir la semaine prochaine entendre un bon message. Et ça va être super. En fait, c'est Alice qui va amener la parole et sûrement elle va parler de son voyage missionnaire qui s'en vient. Et ça va être excellent. C'est une prédicatrice par excellence. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont prêcher le mercredi soir et le dimanche. Et venez nombreux, on va avoir un bon temps. Que le Seigneur vous bénisse.